Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Il y aura le journal des médias de Cyril La Carrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino, un roman stupéfiant avec une machine à remonter dans le temps, mais seulement en images, et notre guide pour faire son choix dans l'embouteillage des sorties d'albums. Notre info média est justement consacrée à la crise traversée par l'industrie musicale. 4,5 milliards de pertes pour un secteur qui génère 257 000 emplois directs ou indirects. Nous serons avec Jean-Noël Tron, c'est le directeur général de la SACEM. Nos invités ensuite, Philippe Glohagen, le fondateur et patron du Guide du Routard, numéro 1 des guides en France, et justement qui sort une salve de guides centrés sur la France pour cause de confinement. Enfin, Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt, mais également médecin, il vient nous parler de son roman Le Flambeur de la Caspienne, mais également de la crise sanitaire. Il a des choses fortes à dire. L'ancien diplomate ne parle pas toujours en langage diplomatique et c'est tant mieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril La Carrière.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au journal des médias, qu'est-ce que vous avez au sommaire ce matin?
Ce matin, un camouflet pour le gouvernement, la casse sociale dans les médias, la nouba de la musique qui commence ce soir, BFM se paye un nouveau site et les Français font toujours aussi peu confiance à leurs médias.
Et on va commencer par les audiences qui viennent de tomber, vous avez poussé un haut, donc je sais qu'il y a une surprise. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Oldies but goodies, le mur de l'Atlantique est en tête des audiences, plus de 4 100 000 téléspectateurs. Le film avec Bourville et Jean Poiret, sorti il y a 50 ans, est devant le film Taxi sur TF1.
Incroyable.
Qui lui est sous la barre des 3 800 000 téléspectateurs. Mais quand même, film générationnel, Taxi est un carton chez les moins de 50 ans, qui ça réalise 30% de part d'audience pour Taxi, donc sur les moins de 50 ans. Enfin, Envoyé spécial sur France 2 est en troisième position, loin derrière, avec à peine plus de 1 800 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec un revers pour le gouvernement.
Oui, le Conseil constitutionnel a retoqué hier le cœur de la loi Avia, cette loi qui devait permettre de lutter contre la haine en ligne. Les sages ont en fait jugé comme anticonstitutionnels les deux premiers paragraphes de l'article 1er, ce qui a entraîné la censure de 6 autres articles du texte. Cette loi portée par la députée de la majorité Laetitia Avia devait permettre de demander aux sites et aux réseaux sociaux de retirer certains contenus dans des délais extrêmement courts, à peine 24 heures. Le Conseil constitutionnel estime que certains pans du texte contreviennent au principe de liberté d'expression et sont une atteinte à nos libertés.
Et ce refus a été salué par beaucoup de partis de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est assez rare pour être signalé. Hier, Cyril, vous nous aviez dressé un constat édifiant de la situation sociale dramatique dans les médias. Ce matin, vous avez hélas encore une mauvaise nouvelle à nous relater.
Et cette fois, c'est du groupe Webedia dont je vous parle. Webedia, ce sont les propriétaires des sites Allociné, Pure Media, Pure People. C'est un groupe qui appartient à l'homme d'affaires Marc Ladret de La Charrière. Entre 30 et 90 personnes devraient quitter Webedia prochainement. Ça représente entre 10 et 15% des effectifs. Ces départs devraient se faire par le biais d'une rupture conventionnelle collective. Webedia doit réaliser 50 millions d'euros d'économies.
On va passer à quelque chose de positif. Dimanche 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Fête forcément un peu spéciale cette année pour cause de mesures sanitaires. Ce qui n'empêche pas France 2 d'inaugurer ce week-end musical dès ce soir.
Nous vivons une drôle de période, mais il faut garder l'esprit de fête. Tous ensemble pour la musique, c'est comme ça que France 2 a décidé de baptiser sa soirée spéciale. Covid oblige, France 2 ne sera pas à Nice comme les années précédentes, mais à l'Accor Arena de Paris. Et ce qui s'annonçait comme une soirée presque glauque avec des artistes sur scène dans une immense salle vide, a connu un regain d'intérêt grâce au passage de l'Île-de-France en zone verte. Finalement, il y aura bien du public pour assister au spectacle. 2000 personnes sur les 20 000 que peut contenir l'Accor Arena ont été admises pour venir applaudir entre autres Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Clara Luciani ou encore Vianney. Nous avons joint le producteur de la soirée, Philippe Villamidjana, pour qu'il explique le dispositif, forcément difficile à organiser avec le respect des mesures sanitaires.
Nous sommes en train de monter pour vendredi soir un moment de retrouvailles. C'est de l'émotion, c'est de la magie, retrouvailles entre le public, le vrai, qui va venir et qui sera là, et les artistes qui ne demandent que ça depuis 100 jours. Donc ces 2000 personnes, elles vont être placées en respect total des contraintes sanitaires en termes de distanciation. Elles vont porter des masques parce que même si on est passé en zone verte, les règles existent toujours et s'imposent à tous, au public, aux artistes, aux musiciens, aux techniciens. Donc elles vont être positionnées tous ces gens, et ils vont faire partie de l'écriture, de la mise en image que Tristan Garnier va faire entre les artistes d'un côté, le public que je qualifierais de virtuel dans les écrans et dans les tulles, public des festivals, et puis le vrai public, celui qui est là. Donc c'est cette espèce d'alchimie qu'on va créer ou recréer.
Alors même si Bercy ne sera pas plein, ce public c'est un vrai plus pour une soirée de fête de la musique. Alexandra Redamiel, la directrice des variétés et des divertissements de France Télé, nous explique ce que ça change aussi pour le téléspectateur et la soirée tout entière.
Vous savez, je crois qu'un divertissement c'est beaucoup d'ingrédients. Et je crois qu'on s'est rendu compte et que beaucoup de gens se sont rendus compte que sans finalement l'émotion, sans le regard, sans le prisme d'un spectateur, on vit différemment. L'artiste finalement chante pour son public, et le public envoie, puisqu'il reçoit bien entendu, mais il apporte aussi énormément de choses à l'artiste. Donc finalement, quand le puzzle n'est pas terminé, eh bien on se rend compte qu'il manque toujours une pièce, et je crois qu'aujourd'hui c'est assez joli parce qu'on va avoir le puzzle tout fini. Et on a petit à petit finalement écrit cette histoire, et au début c'est vrai que c'était l'Accor Arena, c'était des artistes qui allaient venir sur scène, et puis au fur et à mesure on a attendu. On en a rêvé. Et je crois que lundi soir, on avait bien entendu en amont préparé au cas où il y aurait l'Île-de-France qui passerait en vert, puisque vous savez que ce sont les événements qui sont concernés par ça. Et c'est vrai que lundi soir, je dois dire que c'était un très beau cadeau que de se dire que le public allait pouvoir venir ce soir.
La fête de la musique présentée par Garou et Laurie Tillman, c'est donc ce soir en direct et en public sur France 2 à partir de 21h.
Petit lifting du côté du site internet de BFM TV.
Vous savez, avant les journaux et les magazines usaient et abusaient des nouvelles formule, sans qu'on sache d'ailleurs si cela avait le moindre impact sur le recrutement des lecteurs. Maintenant, les sites internet en font autant. BFM TV a donc décidé de faire peau neuve. Julien Mielcarec, le rédacteur en chef du site, nous explique l'importance de cette refonte.
Alors, ce que ça dit de nos intentions éditoriales, c'est qu'on doit sans cesse se renouveler, sans cesse réfléchir à la façon dont on met en scène l'actualité aussi sur le digital, où ça va très vite, la concurrence est très forte, et surtout où les usages changent rapidement. C'est-à-dire que les gens sont en demande permanente de nouveautés, en demande permanente de nouvelles expériences. Donc pour nous, là, on avait envie d'avoir un site beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à lire, et surtout qui mette un petit peu plus en avant ce qui est notre force aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo et aussi et surtout le direct.
Alors si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'au-delà de cette nouvelle formule, le site de BFM est le premier site d'actualité sur mobile avec plus de 150 millions de visites au mois d'avril dernier. Mais en France, plus d'un tiers des internautes utilisent un adblock, c'est-à-dire un bloqueur de publicité lorsqu'ils naviguent sur Internet. Et alors, est-ce qu'on y pense quand on crée un nouveau site? La réponse de Julien Mielcarec, le rédacteur en chef du site de BFM.
Quand on a travaillé les nouvelles maquettes du site, il y avait évidemment la volonté d'être plus lisible, plus clair, mais on a aussi beaucoup réfléchi à ce qu'on appelle la pression publicitaire. C'est évidemment important d'avoir de la publicité parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent et qui permet ensuite de financer l'information. Mais c'est vrai qu'on a vraiment réfléchi les nouvelles maquettes du site, ce nouveau site, pour que la publicité soit un petit peu mieux intégrée, donc moins intrusive, et aussi pour qu'elle soit clairement identifiée. Voilà, les gens peuvent d'un seul coup d'œil dans leur expérience, faire la différence entre ce qui est le contenu éditorial et ce qui peut être des espaces publicitaires qui l'entourent.
Reuters et l'Université d'Oxford ont publié leur rapport annuel consacré à la presse en ligne.
Et c'est un rapport qui symbolise bien toutes nos contradictions avec l'information. Je vous cite un premier exemple. C'est à la presse régionale et locale que les Français font le plus confiance pour s'informer devant, par exemple, des marques comme France Info, France Télé ou Le Monde. Et pourtant, à peine un tiers des Français disent s'intéresser à la presse régionale et locale. Sur cet indicateur d'ailleurs de l'intérêt pour la presse régionale et locale, la France est en 37e position sur les 40 pays observés par l'étude Reuters. Autre paradoxe, depuis cette année, c'est sur Internet et les réseaux sociaux que les Français vont chercher principalement leur information. Et devinez à quel support ils font le moins confiance, évidemment à Internet et aux réseaux sociaux.
Et puis ce que révèle également ce rapport de Reuters, c'est que la France est en retard sur de nombreux indicateurs de consommation de l'information.
Ouais, seulement 10% des Français disent avoir payé pour de l'info en ligne l'année dernière, c'est deux fois moins que les Américains, par exemple. Nous sommes également en queue de peloton pour la consommation des podcasts, pas franchement mieux positionnés concernant l'utilisation des newsletters pour s'informer, mais peut-être que tout cela n'est pas une surprise. Reuters nous révèle que seuls 23% des Français ont confiance dans les informations qu'ils lisent dans les médias. Cela nous classe en avant-dernière position, coincée entre Taïwan et la Corée du Sud.
Avant-dernière position des pays étudiés, évidemment, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup, beaucoup d'autres dans lesquels
les 40, ouais.
La situation est encore pire. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, bon week-end, à lundi pour un nouveau Journal des Médias.
À suivre l'infomédia du jour avec l'association Tous pour la musique qui vient de publier le chiffre des pertes du secteur musical. On en parle avec le directeur général de la SACEM, Jean-Noël Tronc, qui sort avec nous dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
4,5 milliards d'euros, cette somme astronomique dévoilée hier est une estimation des pertes de la filière musicale pour l'année 2020. Premier secteur à se confiner et dernier à se déconfiner. La situation est catastrophique pour la deuxième industrie culturelle française. Des organisateurs, des producteurs de spectacles jusqu'aux artistes en passant par les managers, la filière est durement touchée par le Covid-19 et le sera encore l'année prochaine, plutôt par les conséquences du Covid-19. Conséquences directes sur les emplois à plus long terme, même sur la création. C'est ce que décrit une étude réalisée à la demande de l'association Tous pour la musique. Et nous sommes à quelques jours de la fête de la musique. Les professionnels de l'industrie musicale française alertent sur cette situation désastreuse. Pour en parler, je reçois Jean-Noël Tronc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qu'on connaît sous son acronyme SACEM. La SACEM qui fait partie de l'association Tous pour la musique à l'origine de cette étude. Le chiffre à retenir, c'est donc celui des pertes pour 2020. 4,5 milliards d'euros, je le disais, soit 43% de moins qu'en 2019. Chiffre obtenu suivant le pire scénario que vous nommez le scénario noir. Quel est ce scénario, Jean-Noël Tronc ?
C'est malheureusement celui qui se dessine parce que, vous l'avez dit vous-même, la musique a été le premier secteur à être frappé par la crise, avec des annulations de concerts dès la fin février. Et pour une part des professionnels de la musique en France, il n'y aura pas de revenus en 2021 non plus. D'abord parce que les festivals et une partie des salles n'auront pas réouvert. Et ensuite, parce que pour une partie importante des gens qui créent, notamment le maillon faible, qui est le maillon fort en même temps, les auteurs, les compositeurs, ceux qui fabriquent la musique, leurs droits d'auteur qui sont souvent payés avec quelques mois de décalage par les gens qui utilisent leur musique, que ce soit des commerces ou des médias, c'est en 2021 qu'ils vont être directement impactés par le Covid. Mmh. Et là, c'est un impact qui est décalé, de double lame, mais c'est un effet direct. Donc dans ce scénario dont on espère tous qui va peut-être s'améliorer un peu si la reprise des concerts et des festivals peut se faire plus tôt que prévu, dans des conditions sanitaires sûres, on a en effet 43% de destruction de la valeur d'un secteur qui, je voudrais juste donner ce chiffre, moi, qui me frappe beaucoup, c'est 257 000 emplois, la musique en France. C'est la première pratique culturelle des Français. Le Parisien, dans une enquête hier, a montré que pendant le confinement, 7 Français sur 10 disent que les chansons les ont aidés à tenir le coup. Et c'est ça, la valeur symbolique de la musique. Mais derrière la musique, il y a des gens qui la font. Et je prends cette formule qu'on doit à un auteur de la SACEM d'ailleurs, qui dit « Les droits d'auteur font vivre ceux qui nous font rêver ». Là, le défi, c'est de savoir si ceux qui nous font rêver vont pouvoir continuer à vivre de leur travail, en fait.
Ça, c'est le scénario noir. Il n'y a pas de scénario blanc, je le dis tout de suite. Il y a un scénario gris.
Oui, alors, dans cette hypothèse-là, la casse est un peu moindre. Mais on est de toute façon tous en train de faire des hypothèses. Et ce que je dis est vrai pour l'économie mondiale, ce que je dis est vrai en France pour toute l'économie de la culture. Autre chiffre quand même qui peut frapper, hein, l'économie de la culture en France, c'est plus que l'industrie automobile, c'est 1,3 million emplois. Le cinéma, la musique, les médias, le livre, la peinture, la photographie, la musique, le spectacle vivant, c'est près de 100 milliards d'euros. Et là, les hypothèses sont entre 20 et 30 milliards de pertes de revenus. C'est un secteur qui
de pertes de revenus, de
pertes de revenus,
gagner.
Absolument. C'est ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que c'est un secteur qui est extraordinaire parce qu'il est très riche en emplois. Hein, il y a plus de jeunes qui travaillent dans le secteur de la musique en France que dans la moyenne de l'économie française. Mmh. C'est un secteur où les emplois sont peu délocalisables. C'est un secteur étroitement interdépendant public-privé. Dans les chiffres que je vous donne, il y a aussi la vente de billets pour les musées. Mmh. Beaucoup de salles de spectacle en France sont municipales. Et je voudrais revenir encore une fois sur les gens pour qui je me bats. La SACEM, chaque année, répartit des droits à 88 000 auteurs-compositeurs et 4 000 éditeurs de musique, qui sont ses membres. On est une société privée à but non lucratif, hein, créée par des gens qui regroupent la richesse qu'ils créent et qui ensuite est utilisée. Utilisée aussi bien par des boutiques qui diffusent de la musique que par des producteurs de disques ou des producteurs de spectacles. Sur les membres à qui on répartit des droits, notre hypothèse, c'est 250 millions d'euros de perte de revenus, c'est-à-dire un quart des revenus de la SACEM en moins. Accessoirement, la SACEM elle-même, en tant que sans doute première entreprise privée de la musique en France, même si elle est à but non lucratif, c'est une entreprise privée, c'est un effondrement de la situation économique de la SACEM elle-même. Puisque la SACEM n'est financée que par les droits qu'elle verse à ses membres et sur lesquels elle prélève en moyenne à peu près 15%. Quand on arrive à collecter 100, on arrive à reverser 85 à nos membres et avec le reste, on paye les salaires, l'informatique, tous les développements, tous les services qu'on rend à nos membres. Ben, quand on va perdre un quart de nos revenus, la société va être dans une situation de déficit qui lui est jamais arrivée dans son histoire et toute l'économie de la musique est dans la même situation, plus ou moins frappés violemment. Ceux qui vivent plus du streaming, qui est une activité qui, elle, va continuer à croître, vont mieux s'en tirer. Mmh. Ceux qui vivent principalement de la musique diffusée dans des magasins ou dans les concerts, pour nos auteurs-compositeurs, c'est 60 à 70% de perte de revenus pour eux en 2021.
Comment vous allez faire si vous êtes en déficit? Est-ce que vous allez reporter ce déficit sur les droits d'auteur? Vous en allez en verser moins? Vous parliez de 85%, ça sera moins? Ou est-ce que vous allez devoir, pardon de dire les choses, licencier, mettre des gens en chômage partiel ou baisser le salaire de tout le monde, comme ça se fait dans certaines sociétés?
Ben, on a fait tout ça à la fois, sauf augmenter les prélèvements sur nos membres. Justement, pour éviter de le faire, on a d'abord lancé un énorme plan d'économie. La moitié des salariés ont été en chômage partiel. Et même pour l'équipe qui m'entoure, par exemple, qui ont travaillé peut-être encore plus que d'habitude en télétravail, on a quand même décidé par solidarité de baisser nos propres rémunérations dans les mêmes proportions. On bloque toute une partie de nos investissements, on ne renouvelle pas les CDD et la crise, elle touche très directement nos métiers. On a également, pour être clair, en tant que SACEM, mobilisé tous les moyens qu'on avait pour faire un plan d'urgence massif pour nos membres, une cinquantaine de millions d'euros, des avances avec une période blanche d'un an, remboursable sur 5 ans, pour aider nos membres à passer le cap, des aides directes. On a plus de 2000 dossiers d'aide qu'on est en train de traiter, on en a plus de 1000 sur lesquels on a pu déjà verser, c'est parfois 500 euros, 700 euros. Ce qu'on oublie, c'est que ce maillon fort, qui est celui de la création, c'est souvent le maillon le plus faible. Un auteur-compositeur, souvent, il n'a ni intermittence du spectacle, ni salaire. Son droit d'auteur, c'est son seul revenu.
On va parler des conséquences de votre appel, notamment auprès du gouvernement, ou de l'absence de conséquences. Vous restez avec nous, Jean-Noël Tron.
Merci.
L'association Tous pour la musique a réalisé une étude sur la perte du chiffre d'affaires prévisionnel de la filière musicale sur l'année 2020. Le chiffre avancé est de 4,5 milliards d'euros de pertes. On continue à en parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Dans l'infomédia du jour, ce matin, on parle de cette étude réalisée à la demande de l'association Tous pour la musique sur la perte du chiffre d'affaires du secteur musical sur l'année 2020 qui est colossale. On en parle avec notre invité, le directeur général de la SACEM, Jean-Noël Tron, Philippe.
Colossal, 4,5 milliards d'euros, 4 milliards et demi. Et vous disiez que non seulement 2020 serait impacté, mais 2021 également, que les concerts qui ne seraient pas les mêmes que d'habitude, mais on n'arrête pas ici d'annoncer la reprise. Par exemple, le Festival des Vieilles Charrues en 2021, le Festival à Lyon, plein de festivals. Ça va reprendre en 2021 ou ne me détrompez pas?
Ça reprendra, mais à l'été 2021. Et beaucoup de grands groupes anglo-saxons ne mettront pas les pieds en Europe dans les prochains mois. Et les festivals, c'est beaucoup l'été.
Oui, mais les prochains mois, c'est 2020. Moi, j'ai fait peur pour 2021.
Mais au printemps 2021, on pense qu'il y a encore un certain nombre d'annulations qui n'auront pas été reportées.
Dingue.
C'est pour ça que quand on parle d'un scénario noir, on craint que ce soit le scénario réel de ce qu'on va constater économiquement pour notre pays, quelque part autour des fêtes de Noël, quand il va falloir se mobiliser pour un plan de relance de l'économie française. Moi, je dis pour la culture, il ne faut pas parler de relance, il faut parler de reconstruction. J'ai parlé de plan Marshall, les gens trouvaient ça exagéré. Enfin, le plan Marshall, ça consistait à reconstruire une économie détruite. Une partie de l'économie de la culture va être détruite. Il faut regarder les choses en face.
Non, mais les installations ne sont pas détruites. On ne peut pas comparer non plus. Le plan Marshall, les fermes avaient été bombardées. Là, rien n'a été bombardé. Tout est intact. Le matériel est intact.
Très juste. Mais derrière le matériel, il y a des gens qui exploitent ce
bien
matériel.
Sûr, bien sûr.
Il y a des patrons de salles qui vont faire faillite. Il y a des producteurs de spectacles qui vont déposer le bilan. Il y a des éditeurs de musique, un métier qui est moins connu, mais qui est central, qui sont les partenaires des auteurs-compositeurs, qui vont avoir déposé le bilan. Et dans la culture, ne l'oublions pas, hein, tout n'est qu'économie de prototype. Quel que soit l'ampleur de ce que vous créez, que ce soit un blockbuster ou un petit morceau de musique classique, très modestement financé, c'est toujours un risque. Personne ne peut dire ce qui va marcher ou pas. Donc quand on perd des talents, on les a perdus. Ils ne sont pas substituables, on ne remplace pas un modèle de voiture par une autre. Là, c'est un artiste qui arrête sa carrière et son métier, qui arrête de vivre de son travail, il ne sera plus artiste. On aura perdu un talent et c'est peut-être pour les 20 prochaines années.
Alors, il n'y a pas que les têtes d'affiche, je vais le répéter, 257 000 emplois dans la filière musicale à préserver. Vous proposez pour cela des mesures concrètes. La première, un accompagnement social et fiscal adapté à l'ampleur de la crise. En quelques mots, lequel? Sans être trop technique ni jargonneux.
Emmanuel Macron, le 6 mai, a fait des annonces qui étaient fortes. Et il y a eu la semaine dernière la confirmation par Franck Riester d'une mesure très forte pour aider les intermittents du spectacle. Ça, c'était indispensable et c'est très bienvenu. Simplement, les intermittents du spectacle, ils ont des employeurs. Et pour eux, il faut absolument un accompagnement. Pour les auteurs-compositeurs, le président de la République a annoncé 4 mois sans charge. Bon, c'était il y a 6 semaines. Nous, on attend toujours de savoir concrètement quand ça va se faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, ce n'est pas en 2021. Parce que si vous exonérez de charges des gens qui auront perdu leurs revenus, ça n'a plus grand intérêt.
Puisque vous dites on attend toujours, quand vous toquez à la porte du ministère de la Culture et Franck Riester, que vous répond-on? On vous dit, on vous donne une date?
Non. Pour l'instant, ils sont en train de travailler d'arrache-pied sur cette question, sur la question de savoir comment on peut sanitairement réouvrir les salles. Ils se battent pour ça, il faut quand même le dire. main dans la main avec les producteurs de spectacles. Mais nous, en tant que filière, on a voulu simplement rappeler une chose au pays, c'est que la fête de la musique, qui est un moment énorme, planétaire, c'est la fête de toutes les pratiques amateurs, mais pour les professionnels, c'est plutôt une non-fête de la musique. Il faut qu'on se batte pour que tout ça ne se termine pas par une défaite de la filière musicale française.
Vous dites que les radios, les télévisions, les plateformes et les lieux de diffusion de musique ont également un rôle à jouer. Lequel ?
Plus ils diffusent du Made in France, plus on va pouvoir limiter même un tout petit peu l'impact de la casse. Nous, la SACEM, quand on fait payer des droits d'auteur à une chaîne de radio, c'est en fonction de la quantité de musique qu'elle passe. Mmh. Ensuite, quand on répartit les droits, on les répartit à ceux dont la musique a été diffusée. Donc si vous passez un peu plus de Made in France, on va envoyer un peu moins d'argent vers nos homologues américains ou anglo-saxons. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, certains des plus grands groupes anglo-saxons soient ceux qu'on ait le plus besoin d'aider. Quand les médias, sans payer un euro de plus en droits d'auteur, diffuseront plus de Made in France, on rémunérera plus la création française.
Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a le Ségur de la santé, vous voulez lancer un Valois de la musique, c'est-à-dire ?
Oui, la filière musicale regarde une chose.
C'est on va dire Valois parce que le ministère de la Culture est installé rue de Valois.
Oui, absolument, rue de Valois. Franck Riester, qu'on a beaucoup critiqué ces dernières semaines, la critique est facile, l'art est difficile. Franck Riester, c'est probablement de tous les ministres de la Culture qu'on a connus récemment, celui qui connaît le mieux la filière musicale.
Ah voilà. Oui.
Oui, il était co-auteur du rapport sur le Centre national de la musique en 2011. Ce Centre national de la musique, là, il est créé. Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait remettre 50 millions d'euros puisque les caisses de ce centre de la musique ont été vidées. Il était financé par une taxe sur le spectacle. Il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus de taxe. Et il avait eu un peu de sous qui a été dépensé par un fonds de secours pour les producteurs de spectacles. Mmh. Donc concrètement, ce Valois, c'est quoi ? C'est l'idée de réunir l'État, tous les acteurs privés et les collectivités locales. Dans la dépense publique sur la culture en France, les deux tiers, c'est les collectivités locales. L'État, ça n'est qu'un tiers. Et par ailleurs, sur la totalité de l'économie de la musique, le privé, c'est les deux tiers. Donc les deux tiers, c'est privé, et dans le tiers qui est public, les collectivités locales, c'est la très grosse majorité. C'est ça un Valois de la musique, c'est réunir tout le monde à l'automne.
La quadrature du cercle, je posais la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. L'État est exsangue, je crois que c'est 2000 milliards qui ont été dépensés. Le privé n'a plus d'argent, n'a plus de ressources à cause du Covid. On a beau se réunir, on ne va pas fabriquer de l'argent. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ?
Non mais, le gouvernement français a contribué à ce que l'Europe annonce 700 milliards de plans de relance que les États vont pouvoir mobiliser. Ce que je veux juste te dire, c'est que dépenser dans la culture, ça n'est pas dépenser, c'est investir. Le milliard qu'on va mettre dans la culture à l'automne, c'est 10 milliards qu'on aura gagné ou perdu dans 5 ans. C'est de ça dont on parle. Donc dans le plan de relance que le gouvernement français prépare avec les collectivités locales, il faut simplement que ce qui est en train d'arriver à la filière musicale soit bien pris en compte et qu'au-delà des mesures d'urgence qui ont été prises et qui encore une fois étaient bienvenues, on prenne des vraies mesures de relance économique. Encore une fois, ce secteur est un secteur d'investissement, de rayonnement, d'attractivité du pays. Une partie du tourisme français dépend aussi de la présence des grands festivals. Une ville comme Clisson, elle vit grâce au Hellfest. Mmh. Une ville comme Carhaix, elle vit grâce aux vieilles charrues.
Oui, ouais.
La région PACA, la région des Pays de Loire, c'est des régions où on dit festivalière. C'est de ça dont on parle et c'est pour ça qu'on se bat.
Tout à fait autre chose, la présidence de France Télévisions va prochainement être examinée par le CSA et votre nom, Jean-Noël Tron, circule avec insistance. Est-ce que vous confirmez que vous êtes candidat à la présidence de France Télévisions ?
Je vous confirme que je ne suis pas candidat à la présidence de France Télévisions parce que je suis capitaine d'un navire au milieu de la tempête et je suis très fier de continuer, puisque mon mandat vient d'être renouvelé pour 5 ans, à diriger la première société d'auteurs au monde, ce qui est la SACEM, qui est une coopérative gérée par ses membres, qui est fragile. Mais encore une fois, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs de musique, c'est eux qui nous font rêver à travers leur travail et c'est pour eux que je vais continuer à me battre.
Merci beaucoup Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM. Merci d'être venu parler avec passion de la musique ici en direct sur Europe 1.
Notre Merci. Prochain invité est Philippe Gloaguen, le fondateur du Guide du Routard. Beaucoup d'entre nous vont rester en France pour les vacances, ça tombe bien. Il y a un guide pour chaque région et de belles idées à l'intérieur pour les découvrir. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Philippe Gloaguen.
Bonjour Philippe Gloaguen.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ben, ravi, enchanté, fondateur, directeur du Guide du Routard. Comment pouvait-on ne pas vous inviter ? Le Guide du Routard qui existe depuis 47 ans, le numéro 1 des guides en France, dans le top 20 des livres les plus vendus au monde. Depuis sa création, il s'est vendu 50 millions de titres, c'est-à-dire 1 toutes les 8 secondes. Là, depuis que je parle, il y en a déjà eu 3 de vendus. 150 titres différents, tous mis à jour. Et là, vous sortez des nouveautés centrées sur la France, on va en parler. La France qui sort de 3 mois de confinement. Les Français n'ont pas pu programmer leurs vacances comme prévu. Certains pays sont interdits d'accès. Pour le Routard, vous voyez comment le confinement, c'est une chance ou c'est une frustration ?
Non, c'est pas une chance, parce que la restriction de voyager uniquement en France, c'est un petit peu liberticide. Les gens sont libres de partir, bien qu'on a compris que depuis très récemment, l'espace Schengen est en train d'ouvrir. Donc l'été sera un été à la fois très français et européen. Alors, ça tombe très bien, la France, c'est le plus beau pays du monde, et le fait qu'il n'y aura pas les étrangers touristes à venir en France, on constate déjà qu'il y a une baisse énorme des tarifs, aussi bien au niveau des chambres d'hôtes, des hôtels, des restaurants. Et puis, comme la France, c'est toujours le pays le plus beau du monde, eh bien, c'est une façon de découvrir cette France qui est parfois un petit peu méconnue des Français.
Ah justement, c'est là que vous arrivez. Des nouveautés qui sortent, centrées sur la France. Qu'est-ce qu'on trouve ? D'abord, c'est des ouvrages plus petits que d'habitude. Ce n'est pas les vrais routards qu'on connaît, oui. Bien épais, c'est des tout petits fascicules très très ciblés. Expliquez la philosophie.
Alors, la philosophie est simple. Quand il y a eu le grand découpage des régions françaises qui englobe de grandes régions absolument considérables, je prends la Nouvelle-Aquitaine, ah oui, qui est de la taille de l'Autriche et qui part du Limousin jusqu'au Pays Basque, il y a pas tellement de points communs, de cultures communes, la gastronomie est très diverse, très riche, et donc nous avons avec l'ensemble de la rédaction de Guide du Routard décidé de nous intéresser au mini-terroir, c'est-à-dire la redécouverte de ces petites régions un petit peu oubliées qui dataient un petit peu d'avant la Révolution française, ouais, à l'époque où les gens ne voyageaient pas beaucoup et où il y a une vraie culture et un vrai terroir local. Que ce soit la Thiérache à la frontière avec la Belgique, le Gâtinais au sud de Pithiviers, le Morvan.
J'ai découvert grâce à vous
toutes
des
ces
régions
jaunes qui sont un petit peu pointues, avec une véritable entité, une véritable gastronomie, et c'est redonner aux jeunes la possibilité de savoir d'où ils viennent, où ils habitent. Et c'est
Philippe
vrai que
Glagen,
c'est un énorme succès, parce que nous en avons une quarantaine de titres maintenant. Ce sont des petits bouquins, ouais, qui valent 5-6 euros. C'est
exactement.
Très bon marché, mais qui sont cantonnés à une mini région très pointue. Et c'est vrai que c'est une idée dont nous sommes tous très fiers.
Et en plus, c'est très bien vu, parce que quand on prend le guide du routard, on ne va pas partout de toute façon. Donc on n'a pas besoin. Quand vous avez un guide du routard, il y a parfois 150 pages que vous n'utilisez pas. Vous en regardez 50 particulières. J'ai appris l'existence de régions. Le parc national des Cévennes, je connaissais. Santerre, la Haute-Somme, je connaissais à peu près. Mais alors, la Côte des Barres en Champagne, je ne savais même, ouais, pas que ça existait. La Côte des Barres, c'est écrit BAR. Hein. Ce n'est pas des barres de Champagne pour boire des coups.
Oui, c'est une zone viticole, donc où il y a de grandes exploitations de champagne, mais parmi ces exploitations, il y a des gens qui y habitent, qui y travaillent. C'est une vraie culture. Le champagne est évidemment un vin connu mondialement, mais d'une culture très ancienne, ouais, ça a 5 siècles. Et les villages qui peuplent la côte de Barre, c'est dans la région autour d'Épernay, est une entité très particulière, ouais, très belle.
Alors,
où on peut se balader à pied.
Philippe, je vous interromps parce que
à vélo.
Philippe, je vous interromps parce que si on fait 10 minutes sur la Champagne, on n'a pas le temps de parler de tout ce que vous faites à côté. Il y a aussi le routard des plus belles escapades à vélo avec les 10 plus beaux week-ends à faire en France, avoir des bonnes jambes. Et un truc formidable, c'est comme les bons livres de cuisine, comme les cahiers à spirale, on peut laisser ouvert à la bonne page. Ce qui avait boosté le routard à ses débuts en 83, c'était le contrôle d'échange qui avait été instauré par Mitterrand, parce que les gens avaient peur que les soviétiques arrivent et on n'avait pas le droit de sortir de France avec plus de 5000 francs. Interdiction de sortir du pays. Du coup, les gens aisés ont voyagé en France. Est-ce que le confinement peut booster vos ventes sur la France, Philippe Glagen?
Alors déjà, vous m'épatez, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de journalistes qui se souviennent du contrôle d'échange.
Je vais vous dire,
c'est très vrai.
Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui préparent une interview, surtout.
Oui, donc bravo. Effectivement, ce contrôle d'échange, interdiction de partir avec plus de 5000 francs en poche. Nous, on avait déjà 80 titres sur l'étranger. Et avec mon éditeur Hachette, tout de suite, on a développé la France. Et ça a été un succès absolument.
Mais alors, répondez à ma question. Est-ce que cette fois-ci.
Parce que les gens sont très contents
Philippe,
de connaître leur
Philippe,
leur
merci de répondre à ma question en quelques mots. Est-ce que cette fois-ci, vous avez réorienté le routard vers la France pour cet été et pour le confinement?
Oui, on a complètement changé nos plannings. Nous, en période de confinement, on n'a jamais autant travaillé. On a étalé nos plannings, retardé tout ce qui est étranger. Les premiers titres sur l'étranger vont sortir à partir de l'automne et très branchés sur l'espace de Schengen, sur l'Europe. Et on développe, on a sorti un beau livre sur la France, un gros bouquin de 500 pages qui est un succès fou, deuxième vente en France. Tous ces bouquins sur le mini-terroir. On a développé une collection sur l'œnotourisme, la découverte des régions viticoles, que ce soit l'Hérault, la Gironde ou la Bourgogne. Et nous en sommes au 7e guide, comme vous l'avez évoqué, sur les balades à vélo. Vous avez des randonnées cyclistes extraordinaires en France, que ce soit sur le Val-de-Loire, où les pistes sont totalement aménagé, donc sans risque, pas de cohabitation avec les voitures. Il y a des chambres d'hôtes, il y a des garages pour réparer les vélos. Vous avez Vélodyssée, qui va de Roscoff à Hendaye, qui est la plus grande piste cyclable de France. Et on vient de sortir aussi Flow Vélo, qui est cette randonnée cycliste à travers les Charentes jusqu'à la mer.
Racontez pas tout, Philippe Gloaguen, vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser, on se retrouve tout de suite après ça.
Oui, on a tous acheté un guide de routard avant de partir en vacances, c'est une habitude qui n'est pas prête de s'arrêter, on continue à en parler avec notre invité, le fondateur du guide de routard, Philippe Gloaguen, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Avant de faire un voyage, on prépare sa valise et bien souvent à l'intérieur, on met un maillot de bain ou des chaussures de marche et un guide de routard cette année aussi, avec une préférence pour les guides qui sillonnent la France et ses belles régions. On en parle avec Philippe Gloaguen, le fondateur du guide, Philippe.
Ben tiens, justement, avant de partir quelque part, c'est que les enquêteurs du routard sont partis quelque part. Quand et comment vos équipes, Philippe, vont-elles repartir sur le terrain et vers quelle destination désormais?
Mais je vous rassure, Philippe, elles sont déjà sur le terrain. On a démarré nos voyages depuis 15 jours sous la direction d'Amanda, rédactrice en chef France. Et on a au moins 7 équipes qui sont déjà en train de vérifier les adresses. Parce que malheureusement, on constate qu'il y a quelques adresses d'hôtels et de restaurants qui ferment du fait des difficultés qu'elles ont traversées avec beaucoup de mal. Et donc, c'est notre travail constamment de remettre à jour ces guides de routard. Et le travail a commencé.
Je voulais dire par là, quelle destination visez-vous en priorité? Parce que vous anticipez toujours, j'imagine, la demande dans un an, dans deux ans, dans trois ans.
Alors nous, c'est le retour au terroir, donc c'est les vacances vertes, c'est l'Auvergne, c'est cette France de l'intérieur un petit peu méconnue, très riche, très intéressante, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, tous les guides de vélotourisme.
Ouais. Donc la France, donc ce que j'entends, ce que j'entends avec vous, c'est la France.
Oui, c'est la France de l'intérieur, c'est cette France un petit peu oubliée, un peu méconnue, là où il y a les tarifs les plus abordables. Ouais. Je vais vous citer un seul exemple. Si vous ne savez pas où aller en vacances, allez sur le Grand Est. Il y a très peu de touristes qui vont y aller. L'Alsace est une des régions les plus belles de France et il n'y a plus du tout de maladies dans les semaines qui arrivent au début de l'été. C'est totalement fini et c'est l'occasion rêvée de trouver une région exceptionnelle, très bon marché.
Ça, vous avez raison. J'imagine qu'on a trouvé de la place dans les hôtels à Mulhouse. Le guide du routard a très peu évolué depuis 1973. C'est seulement en 2016 que vous êtes passé à la couleur. Et pour ce qui est d'Internet, en 2011, vous disiez « En ce qui concerne les applications, on est prêt, mais je ne souhaite pas en faire la promo, car si le routard existe depuis 40 ans, c'est grâce aux libraires et aux papiers. » C'est toujours votre politique, Philippe Gloaguen?
Évidemment, le guide du routard n'existe que par les libraires, ce sont nos ambassadeurs. Nous n'avons pas un contact direct, nous, les éditeurs, avec les lecteurs. Et ceux qui font la promotion des ventes, qui mettent les guides du routard en avant, c'est les libraires. Et c'est pas le moment de les lâcher. Nous avons un site internet, routard.com, qui marche très bien. Il est gratuit. Il donne des pistes pour donner l'envie de voyager pour ceux qui n'ont pas de destination en tête, mais ça n'enlèvera jamais l'utilité du guide de papier pour trouver les bonnes adresses, pour les comparer, pour vérifier des itinéraires.
Et puis je vais faire votre blague que j'adore, vous répétez sans cesse qu'on, de toute façon, quand on est en voyage, on ne peut pas tuer un moustique avec une tablette. Il faut le journal, il faut le magazine, le livre. Vous avez lancé routard.com en 96, j'ai retrouvé une des deux personnes qui s'en occupait à l'époque en 96, vous le connaissez bien, le grand public également le connaît, il a fait du chemin depuis, c'est Xavier Demoulin, présentateur emblématique du 19h45 de M6, on l'écoute.
Alors j'ai connu Philippe Gloeguen en 95, je suis jeune journaliste, je travaille dans les nouvelles technologies et la vie a fait que je me suis retrouvé à co-créer le guide du routard, le site internet que j'ai programmé de mes petites mains. Et j'ai aussi coécrit pour lui le guide internet du routard, le guide papier. Et c'est ça, Gloeguen, en fait, c'est quelqu'un qui est très curieux des nouvelles technologies et qui reste quand même très sur son trésor, son savoir-faire premier, le papier. Il n'a jamais voulu lâcher l'histoire de mettre son guide intégralement en papier en numérique à l'époque déjà. Et l'histoire lui a donné raison. Bref. Et puis Philippe, un jour, il a eu un geste pour moi incroyable. Il m'a dit, Demoulin, tu te maries, voici deux billets pour une destination paradisiaque, tu m'en diras des nouvelles. Et donc, il m'a offert mon voyage de noces. Je ne sais même pas s'il se souvient où est-ce qu'il m'a envoyé. Moi, je m'en souviens très très bien. Demandez-lui, Philippe, si tu trouves, on va faire un jeu. Je te promets, je t'invite à déjeuner. Ça m'étonnerait. Allez, que tu trouves. Je t'embrasse très très fort en tout cas. Et vraiment, merci d'avoir toujours été là pour moi.
Vous allez peut-être gagner un déjeuner, Philippe Gloeguen. C'était où le voyage de noces de Xavier Demoulin? Vous en souvenez?
Bon, alors, je ne vais pas être méchant, mais comme il s'est marié plusieurs fois, je ne me souviens plus de quel mariage il s'agit.
Je vais vous dire.
Je dirais soit les Antilles, soit les États-Unis.
Vous avez perdu. C'était en Noël 99 et c'était à l'île Maurice. C'était donc une troisième.
île Maurice.
Philippe Gloeguen, ouais. Un sujet, je sais, qui vous préoccupe, le surtourisme, avec ce paradoxe. Le routard recommande au plus grand nombre des coins de paradis où il n'y a personne. Mais du coup, effet pervers, à cause de vous, ces endroits deviennent bondés. Comment faire que les très beaux endroits que vous dénichez ne soient pas infestés de touristes?
Eh bien, nous sommes en train de lancer une nouvelle façon de voyager. C'est ce qu'on appelle le pas de côté. On se rend compte que sur l'ensemble du territoire, 85% des touristes, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, ouais, vont toujours dans les mêmes endroits. Or, en Espagne, ils ont depuis 10 ans un nouveau marketing qui est la redécouverte de la España Verde, c'est-à-dire c'est l'Espagne de l'intérieur, l'Espagne qui est à 20 kilomètres des côtes. Ouais. Et j'ai fait des petits voyages, par exemple en Andalousie,
très rapidement,
dans
Philippe
les villages
Gloeguen, blancs, très rapidement.
On est à 20 kilomètres de la mer, ouais, et il y a absolument personne dans ces villages qui sont authentiques, qui sont absolument exceptionnels.
Merci beaucoup Philippe Gloeguen d'avoir été avec nous. Le pas de côté, c'est ce qu'on retrouve dans tous ces guides un peu décalés du Routard, Santerre, Haute-Somme, Ariège, Pyrénées, Parc National des Cévennes et beaucoup d'autres. Je ne peux pas tout citer. Merci d'avoir été avec nous en direct. Culture Média qui continue dans quelques instants. Il y aura le journal de la culture et notre invité Jean-Christophe Ruffin, le flambeur de la Caspienne. C'est le titre de son dernier roman, l'histoire d'un calamiteux diplomate mais savoureux, surtout quand on sait que Ruffin a été lui-même ambassadeur. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manier. Puis on va parler musique avec Angèle Châtelier qui va faire le tri pour nous dans l'embouteillage des sorties d'albums après le confinement. Et puis notre coup de cœur de Nicolas Caro, c'est un roman, une machine qui permet de voir le passé. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.